What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Get
it's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Menose fattissimo. Proprio fattissimo.
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles du vendredi, vous qui traquez les fantômes bien vivants du cinéma, bonjour et bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte toujours l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche en 2025.
Ta gueule.
Ah là là, ouais, ta gueule. Bah après David Lynch, Bertrand Blier est mort et le cinéma continue. On vient d'entendre Patrick Devers dire ta gueule, justement dans Les Valseuses, dont on a entendu la bande-annonce, Stéphane Grappelli. Et nous, on continue de parler de cinéma, parce qu'après tout, c'est le propre des œuvres et des êtres de cinéma d'avoir ce statut particulier, ni mort, ni vivant, ni tout à fait immortel, ni même absolument éternel, des êtres et des œuvres qui vivent si le spectateur est vivant. Et nous sommes bien vivants, vive le cinéma. Parmi les vivants aujourd'hui, Cathy, salut Cathy.
Salut Sophie, salut Sylvain.
René.
Bonjour.
Et Olivier.
Ouais, bonjour, merci Sophie pour cette merveilleuse introduction.
Et aussi, bah, ça fait 25 ans que ça dure. Hein. Salut Sylvain.
Salut. On commence à en avoir marre de moi. Hein.
Du tout.
Oh non, moi ça fait 2 ans. Si tu veux, ça... on peut encore durer ensemble un bon moment.
Cool.
Tu peux signer bah, jusqu'à ta retraite. Je sais pas, t'en as encore pour un petit paquet d'années.
Un
non
moment, ouais.
Et ouais. On
merci
est là.
Macron.
Quoi?
Merci Macron.
Ouais, oui.
On va le niquer.
Enfin, tenons-nous. Il est 12h30 et des saines oreilles nous écoutent. Vous êtes là donc pour discuter de Je suis toujours là, du quatrième mur, de A Perfect Unknown. On parlera aussi, on donnera quelques conseils de films qui ressortent pour le festival Télérama. Et puis on parlera également du festival Un livre, un film qui aura lieu le week-end prochain à Tuailles du 31 janvier au 2 février, mais on en dira déjà un mot. Mais d'abord, est-ce que vous voulez dire un petit mot, justement, un petit hommage au sujet de Bertrand Blier ?
Eh ben oui, moi j'avais envie de souligner une chose, c'est sa stature d'écrivain à part entière. Au-delà de sa franchise et de son goût du risque dans la production, j'ai entendu sur Adrien Desnouettes sur France Culture dire qu'il avait comme Audiard, comme Céline, peut-être comme Prévert, pourquoi pas Hugo dans Les Misérables, su saisir le langage de la rue. C'est un poncif faux. Céline, par exemple, ou Queneau dans Asie dans le métro, pour prendre encore un autre exemple, ne saisissent pas le langage de la rue. Ils créent un langage qui n'est absolument pas celui que vous entendez dans la rue. Il ne faut pas avoir été dans la rue. Il faut ne pas avoir été dans la rue pour dire une chose pareille. Et donc, Bertrand Blier, c'est avant tout un écrivain de scénario et un écrivain de dialogue à part entière à mettre au rang de ceux que je viens de citer, en tout cas pour ça. On a un peu plus le langage réel dans chez Barbus, dans Le Feu, ou dans ceux de 14 de Genevois, et ça sonne pas du tout de la même manière, c'est pas la même chose.
l'écrivain, le scénariste. Tu veux dire un
moi,
mot
je, parce que ce qu'a dit Olivier, c'est l'essentiel. Je crains simplement qu'aujourd'hui, que le politiquement correct fasse qu'on l'oublie un peu, alors qu'on ne se rend pas compte qu'il est dans la caricature, mais il n'est pas du tout. Enfin, je veux dire, il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce qu'il lit dans ses films. Je veux dire, c'est.
Voilà. Je vois, Cathy, ouais, que tu hoches de la tête.
Oui, oui, c'est vrai qu'une époque, en tout cas, de façon de faire des films qui se tournent aussi, parce que une page vraiment qui se tourne là pour le coup, parce qu'effectivement, un film comme Les Valseuses, si on prend que celui-là, ne pourrait certainement plus se faire maintenant, quoi.
Ou Calmos, produire. Ou Calmos, par exemple.
Et même, préparer vos mouchoirs ou...
Oui, mais plein de films d'oubli. Enfin,
vous voulez dire sur la manière de tourner ou sur les sujets, sur la manière de faire
à cause du politiquement correct.
À cause du politiquement
Les gens ne le supporteraient pas. On vit une époque qui aime bien la censure, d'une certaine façon, et si paradoxal que ça puisse paraître.
Mais par exemple, sur justement
Il y a quand même matière, dans Les Valseuses, il y a quand même pas mal de scènes gênantes, quoi. Enfin, alors, même s'ils sont des travers, effectivement, que ça dénonce plus que ça ne montre, en se disant, bah oui, c'est comme ça, et on n'y peut rien. Oui, bien sûr. Oui.
Moi, j'ai vu des gens sortir du film, sortir de la projection.
De voir Brigitte Fossé, mémoire, dans le bus, je sais pas,
mais en tout cas, c'est clair que c'est un réalisateur qui a osé, qui n'a pas de langue de bois, qui est vraiment juste et
qui est rabelaisien,
simple,
en fait.
Et rabelaisien.
Moi, j'invite les auditeurs à faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire aller entendre et voir les entretiens qu'il a donnés pour des tas de chaînes, etc., qu'on trouve ça sur YouTube. C'est réjouissant, c'est à la fraîche.
Oui, c'est à la fraîche. Une personne qui était, qui avait une certaine nostalgie ou un rapport à la mort, et pourtant qui avait énormément d'humour, effectivement. Avec une imagination débordante. Et moi, j'avais juste prévu un petit... qui fait le lien. Juste un clin d'œil pour relier les deux. On a reconnu donc David Bowie qui chantait donc I'm Deranged. C'était dans Lost Highway en 1991. Et moi, c'est aussi ce que m'a fait ces films, ce que m'ont fait ces films, d'être dérangé. Il dérangeait Bertrand Blier. Voilà.
Beaucoup.
On continue puisque tu parlais de l'écrivain dans Bertrand Blier. Parlons du festival Un livre, un film qui aura lieu donc le week-end prochain à partir de vendredi 31 et qui aura lieu à Tueil.
À Tueil, oui, exactement. Ça fait 2 ans qu'avec la Maison de l'Image en partenariat avec la médiathèque de Tueil et puis la municipalité aussi qui est très active à nos côtés pour le cinéma et les propositions qu'on peut faire. Donc Tueil, c'est un point de projection que l'on anime toute l'année, la Maison de l'Image. Et effectivement, depuis 2 ans, on a proposé un rendez-vous régulier autour des adaptations littéraires, adaptées au cinéma. Comme on a vu que ça mobilisait quand même un public, on s'est dit pourquoi pas imaginer un week-end, en tout cas on va commencer comme ça, autour d'un festival, un livre, un film.
Pourquoi pas une émission, un livre, un film.
Et pourquoi pas une émission, un livre, un film.
Allez savoir,
mais peut-être un jour, on ne sait pas, ça viendra, on va savoir.
Il est taquin, cet Olivier.
Ça reviendra. Nous avons travaillé...
Une saison 2, une saison 3.
Exactement. Donc là, nous avons travaillé la programmation. Vous voulez quelque chose de quand même un peu festif, pas non plus des œuvres trop difficiles, un peu plus grand public. Donc on commence gentil. Nous avons concocté avec la médiathèque de Tueil, une programmation de 5 films, avec un film jeune public et un film de répertoire. Donc le film jeune public, on sera plutôt autour de la poésie avec À nous le monde, qui sera le dimanche. Mais je vais commencer dans l'ordre chronologique, c'est peut-être plus intelligent. C'est-à-dire donc, le vendredi 31 janvier, il y aura le film qui était programmé en avant-première aux Rencontres des cinémas d'Europe, qui s'appelle Jane Austen, A gâché ma vie. Donc là, ça n'est pas un film directement sur la romancière ou la femme de lettres anglaise, mais on a un personnage principal qui est très fan de cette femme de lettres et qui, là on est dans une comédie romantique et qui va partir en Angleterre faire une résidence d'écriture et qui va voir qu'elle n'est pas du tout inspirée, enfin bon bref, mais on est dans la comédie romantique proche de ce qui peut se faire comme Quatre mariages en enterrement, enfin les films de Richard Curtis dont on a déjà parlé, par exemple. Donc c'est plutôt léger, drôle et très bien réalisé.
Et juste avant de passer aux autres films, comment vous fonctionnez ? C'est-à-dire que vous passez le film et ensuite vous discutez ?
Oui, il y aura à chaque fois une présentation, une co-présentation en fait, pour avoir le côté un peu littéraire, avoir des informations sur soit l'auteur, l'autrice, soit l'histoire, enfin peu importe. Et puis la partie visuelle avec quelqu'un de la maison de l'image. Donc l'idée, évidemment, ça n'est pas... Mais quand on faisait cette merveilleuse émission d'un livre, un film... Yeah. en fait, l'idée, c'est pas trop de faire des comparatifs. Mmh. Enfin, bon, évidemment qu'une œuvre, elle s'adapte très librement. On le voit bien souvent. C'est une inspiration. Elle peut être très proche de
l'esprit, de l'es- sens,
voilà, du roman ou... ou de laisser ou quoi que ce soit. Mais...
Je disais que c'était toujours l'occasion de se faire plaisir deux fois.
Exactement.
À la lecture.
Exactement. C'est-à-dire que là, les gens qui n'auront pas forcément lu le livre, ils vont découvrir le film. Et puis, s'ils voient le film, ils vont peut-être avoir envie de lire. C'est donner cette envie, en fait, de découvrir les deux œuvres. Voilà.
Donc Jane Austen, A gâché ma vie, sera vendredi 31 janvier, en avant-première, puisqu'il est sorti mercredi,
voilà,
il vient de sortir.
Il sort le 22, mais il est tout proche de la sortie, donc ça c'est chouette. Après, le roman de Jim, Les Frères Larrieux, qui est une adaptation de
Pierre Bailly.
Voilà, c'est ça, qui est un jeune écrivain français qui a été découvert en 2008 avec un roman qui s'appelait Polichinelle. Ensuite, Edmond.
Très bon livre, le roman de Jim. Mmh. J'ai pas vu l'adaptation. Mais...
Ensuite, le samedi à 20h30, il y aura Edmond. C'est une reprogrammation d'un film d'Alexis Michalik sur un peu la création, la pièce de théâtre d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, la fameuse pièce. Le dimanche après-midi à 15h, il y aura À nous le monde. Donc là, on est plus sur l'univers pour le jeune public autour de la poésie. Et puis, on finit avec le monument, entre guillemets, La Rose, dont Jean-Jacques Annaud. Et on pourra parler plus longuement d'Umberto Eco et tout ce qui est autour de la sémiologie. Sémiotique, pardon.
Voilà, comme tu veux, c'est un peu les deux. L'étude des signes, justement, et du sens chez Umberto Eco. Oui. Roboratif, le nom de la rose d'Umberto Eco, quand même.
Et le nom de la rose aussi adapté en bande dessinée par Manara en 2 tomes. Mais le deuxième n'est pas encore sorti.
J'ignorais.
Oui, premier tome, il est à la médiathèque d'Aubenas. Allez le chercher.
Donc c'est un festival petit prix, 5 € pour tous, pour tous les films. Et le film jeune public, c'est 4 €. Parce qu'il fait moins d'une heure, et donc vraiment un film accessible avec des œuvres assez accessibles aussi.
Allez-y, puis en plus, il y a toujours une bonne ambiance dans les festivals concoctés par la Maison de l'Image. Merci Cathy. On parle d'un livre, d'un film, voici une adaptation d'un roman, celui de Serge Chalandon, qui était prix Goncourt des lycéens en 2013.
Ça va ?
Salut. Il y a un petit problème. L'acteur Chrétien, il ne peut pas passer la ligne de démarcation. Il faut que cette pièce existe. Il faut qu'on existe.
Tu comprends qui dans cette guerre ?
Je suis pas pour la guerre, je suis pour la paix.
Tu poses aucune question. Tu ne regardes pas dans les yeux. Tu es impur.
jouer un rôle, c'est lié au péché, c'est haram.
Ici, on manque de tout. Je ne comprends pas ce que vous venez faire avec le théâtre, là, maintenant, dans notre pays.
On va la monter, cette pièce, un jour.
Voilà, c'est brut, je l'ai coupé un peu. Vif, le quatrième mur de David Holofen avec Laurent Lafitte, Simon Abkarian, Manal Issa, entre autres. Vous êtes deux à être allés le voir. René, d'abord.
Je vais essayer d'être bref parce qu'il y a encore beaucoup de choses, de sujets à aborder. Donc, ce film raconte le voyage d'un metteur en scène français au Liban pour monter Antigone de Jean Anouilh avec des acteurs plus ou moins amateurs qui viennent des différentes communautés qu'on rencontre au Liban. Il y a des druzes, des chrétiens, des chiites. Voilà. Et donc, ce qui va, disons, complexifier l'histoire, c'est que ce metteur en scène, Georges, interprété magistralement par Laurent Lafitte, va tomber amoureux de la jeune femme qui a été pressentie pour tenir le rôle d'Antigone. C'est donc un film dense, émouvant au possible, dur, qui nous plonge dans l'enfer du Liban, avec les décors d'un Beyrouth en ruine, bombardements incessants, tirs d'armes à feu. Rapidement, on a le sentiment que la mort est partout, que l'horreur peut fondre sur les personnages à tout moment. Voilà, c'est une situation absurde, tout à fait conforme à la vision qu'en avait Camus, à savoir on a des personnages qui aspirent de toute leur force à vivre par le théâtre, c'est-à-dire à faire société sans a priori les uns envers les autres, puisque je l'ai dit, toutes les communautés sont représentées, et qui se voient refuser cette aspiration légitime et salvatrice par cette guerre affreuse qui cloue ce pays depuis des années et des années. Alors c'est absurde, et cet absurde est vécu sur le mode du tragique. Antigone, bien sûr, c'est une tragédie. Et il ne s'agit pas pour le metteur en scène, interprété encore une fois par Lafitte, qui joue tout en distanciation. Il ne s'agit pas de laisser les acteurs se laisser aller au pathos, à l'emphase. Il le leur dit d'ailleurs, vous allez jouer dans une tragédie, donc on sait que c'est fichu d'avance, il ne faut pas entretenir l'illusion que ça pourrait s'arranger. Mmh. Et bien sûr, cette pièce d'Anouilh est une tragédie dans la tragédie libanaise. Alors, pour finir, un détail qui m'a interpellé, dans les cahiers du cinéma se sont offusqués du rôle joué par justement le personnage incarné par Lafitte. Je cite, « La mise en scène construit très lisiblement le héros français en figure d'autorité quasi coloniale et messianique. » Alors, c'est peut-être vrai, mais si c'est vrai, c'est un mal nécessaire. Je crois que... au cinéma, comme partout, c'est ce que nous apprend la linguistique, il faut toujours savoir à qui on s'adresse. Et ce film sera vu essentiellement par des spectateurs français ou européens qui ne peuvent pas comprendre la tragédie libanaise. Ils ne peuvent que la constater, d'où l'importance de la retenue dans le jeu de Lafitte. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'à partir du moment où il s'implique... à partir du moment où il tombe amoureux de cette fille, là, il passe de l'autre côté du mur. Et là, il devient lui-même partie prenante. Voilà. Mais c'est très essentiel. Encore une fois, là, ce qui défrise les cahiers du cinéma est absurde. Complètement absurde. Ouais. Et justement, on n'a pas dit, peut-être qu'Olivier le fera, dire un mot sur la notion de quatrième mur.
Oui, effectivement. Eh bien, entièrement d'accord avec ce que vient de dire René. On en a parlé hors antenne avec Sophie. Il y a une chose que j'avais envie de dire, c'est que ce film était l'illustration d'un phénomène humain universel, à savoir qu'est-ce qu'on fait du trauma grave, du trauma tragique indépassable. Sophocle, il avait sous les yeux les guerres médiques et les guerres du Péloponnèse. Il a vécu tellement longtemps, Sophocle, il a connu tout ça. Anouilh, quand il écrit son Antigone, c'est sous l'occupation allemande. On est en 44. Il parle d'occupation, il parle de résistance. Ça rigole pas du tout. Il parle des gens qui meurent dans les prisons sous la torture. Bon, Sorge Salandon, quand il écrit le quatrième mur, il est le premier occidental non colonial à avoir rendu compte des massacres de Hama, c'est-à-dire quand El-Assad, le père, tombait à bras raccourcis sur les gens. Et Serge Chalandon, il a connu la guerre civile irlandaise.
Il était un grand reporter.
Un grand reporter, il l'a connu intimement. Et alors, effectivement, le quatrième mur, donc c'est ce mur virtuel qui se trouve entre les acteurs et le public. Et effectivement, tous ces hommes, que ce soit Sophocle, qui a participé à la vie politique de son temps, qui... probablement été se battre, que ça soit effectivement Anouilh qui, bon, son statut particulier sous l'occupation, mais bon, peu importe, il le vit, quoi. Serge Chalandon le vit, et le personnage incarné par Lafitte est dans le cœur du trauma. Et comment on sort du trauma ? On n'en sort pas. Mais comment on essaye d'en sortir ? Ben, d'abord, en le réduisant, ce trauma, par l'imaginaire, et puis ensuite, en faisant une œuvre littéraire. C'est-à-dire que Sophocle, il a écrit sa tétralogie, on a que trois pièces, mais il a, avec donc Édipe, et puis l'histoire d'Antigone, qui sont avec les Polynice et Théocle, qui sont les fils d'Édipe. Donc on est dans les traumas privés et publics majeurs, c'est-à-dire des meurtres, des incestes, etc., qui sont universalisés dans certaines sociétés, et on prend ça, on essaye de prendre ça en main, à travers des œuvres littéraires, comme Serge Chalandon l'a fait pour l'Irlande, par exemple, ou ici Beyrouth, et David Ehlhoffen, dans ce film, il fait la même chose. C'est-à-dire, il prend en charge le trauma, et on finit par plus bien savoir s'il a franchi lui aussi le quatrième mur, c'est-à-dire, est-ce qu'il est passé du côté du traumatisé ? Est-ce qu'il est, lui, dans une flaque de sang ou pas ? Il y a une scène emblématique folle dans ce film. Il est accroupi à côté d'un sniper chrétien, qui est le chef d'une phalange chrétienne, et ce sniper, il a une toute petite lucarne de 10 cm sur 10 cm à travers laquelle il flingue des gens, et il dit à Laurent Lafitte qui est à côté de lui: me pose aucune question, me parle pas, tu me demandes pas si je l'ai eu le mec ou si je l'ai pas eu, etc. C'est-à-dire, voilà, est-ce que je rentre dans le trauma ou est-ce que j'y entre pas? Et ce film nous met, je dirais, on est assis sur le quatrième mur et on manque de tomber du côté du trauma. Moi, tout à fait honnêtement, quand je suis sorti du film, j'ai pas pu parler avec les personnes que je connais au navire. Il a fallu que je parte pour résider. C'est vraiment fort, hein, comme film. Je pense que René...
Très, très fort. Ouais,
ouais. Allez voir Le quatrième mur, donc, de David Ehlhoffen, qui est au navire et à Privas cette semaine.
Avec ceux qui sont passionnés par ce film, une excellente interview du metteur en scène sur France Culture dans l'émission du samedi après-midi. Vraiment excellente.
Merci. Donc, qui sera bientôt à Ruons, au Vence et à Rosières. Donc, vous aurez toutes les opportunités pour aller le voir.
Vai ficar andando no carro daquele playboy, né?
Ô pai, eu achava que playboy era quem ficava bebendo uísque, fumando charuto o dia inteiro.
Sua mãe, mulher mais linda do mundo.
Deputado Rubens Paiva.
E eu já volto, filho.
O meu marido está em perigo.
Todo mundo está em perigo, Eunice.
Ainda estou aqui, je suis toujours là, de Walter Salles. J'ai dit René, non, Olivier.
Oui.
Olivier qui est toujours là.
Ainda estou aqui, também. Oui, très beau film, magnifique. Sur le titre Ainda estou aqui, bon, c'est bien traduit parce que je suis toujours là, effectivement. Sauf que, bon, en portugais, toujours, ça serait plutôt sempre. Et ici, c'est Ainda, ça veut dire encore. C'est-à-dire, il y a une notion d'insistance. Attention, je suis encore là. Alors, c'est l'histoire d'un ancien député. On est à Rio en 1970, dans le quartier de Leblon, et à côté de la plage de Leblon. Et on est dans une vie familiale presque idyllique,
un couple merveilleux, 5 enfants sublimes, enfin tout va bien, jusqu'à ce que la dictature s'en mêle, on n'en dit pas plus. Ça suffit, c'est une catastrophe. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, pour essayer de sortir un élément plutôt que de m'étendre sur la dictature militaire, je suis passé juste à côté, moi je suis arrivé 2 ans après. C'est la dictature militaire, c'est
84-85,
voilà. La famille se photographie beaucoup. Ils ont même un rituel de la photographie d'eux en groupe de famille, comme ça, à la plage, dans la salle à manger, etc. Ils se photographient beaucoup les uns les autres et ils se filment les uns les autres. La fille aînée en particulier a souvent avec elle une caméra Super 8 et ils se projettent les films. Quand elle va, bon, il la réfugie presque à Londres, l'aînée. Il y a une grosse communauté brésilienne à Londres dans les années 70, avec Caetano Veloso, Gilberto Gil, etc. Et elle envoie un film de ce qu'elle vit à Londres. Voilà. Donc, on est... Le réel est transformé en image avant que le réalisateur arrive et filme pour faire son film, si vous voulez. Du coup, le film est comme une deuxième couche d'image superbement faite. Superbement faite, le grain de la photographie, enfin, tout est, c'est parfait, que ce soit dans les geôles, ou que ce soit à la maison, ou que ce soit au bord de la mer, c'est très bien. Et alors, si vous voulez, ça enrobe toute une série d'images préexistantes, si bien que nous pénétrons par le film dans l'intimité de cette famille, de ce couple, et nous pénétrons dans l'atmosphère terrible que fait régner la dictature militaire sur une ville comme Rio, qui est quand même, on va pas rentrer dans les clichés, mais enfin, c'est quand même une fête, c'est quand même une ville extrêmement festive, amoureuse, enfin, c'est blindé de désirs, de musique, etc.
On l'a entendu dans la première partie de la bande-annonce.
Oui, alors moi, c'est ma BO originale, ça. Le film commence avec les Mutants, Os Mutants, qui est un groupe de l'époque, une espèce de rock dur, rappeux, comme ça, magnifique. Il y a énormément de courants musicaux à l'époque, le tropicalisme, bon, peu importe. En tous les cas, on vit ça, et du coup, la dictature... Cette espèce de cancer qui vient se mettre dans les organes de la société brésilienne, on le sent aussi terriblement. Ça m'a fait un peu l'effet de l'atmosphère qu'il pouvait y avoir en Espagne pendant Franco ou tout de suite après Franco. C'est palpable. Même au Portugal, on sent les effets de la dictature de Salazar, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Longtemps après. Donc, c'est tout ça qu'on sent très, très bien. Et alors, évidemment, quand on est amoureux, comme moi, de ce pays, de cette langue, etc., et que forcément, on adore ces gens, mais en même temps, on les déteste. C'est très équivoque, c'est très ambigu le sentiment qu'on a. On hait le Brésil des militaires et on adore le Brésil de la musique de Caetano Veloso, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le film, pour cette raison-là, est un puissant témoignage de ce qu'est la dictature des généraux au Brésil et après universellement, parce que ça prend une valeur universelle. Ça m'a inévitablement fait penser aux graines du figuier sauvage, où là aussi, on rentre dans le cœur de la dictature islamiste
des mollas.
Les graines.
L'incident sur la famille, justement.
Aussi, oui. Ouais. Aussi.
C'est le parallèle que tu fais.
Ça nous touche intimement, ouais. Parce qu'on est dans l'intimité. Cet ancien député Carioca, là, on a envie de l'embrasser, on a envie de danser avec lui, on a envie d'écouter de la musique avec lui, etc. Et. La dictature met fin à ça absurdement. Il faut quand même bien voir que c'est absurde. C'est un petit peu ce qu'on vit aux États-Unis en ce moment. Si vous voulez, vous avez l'absurdité qui gagne. Vous voyez, drill, baby drill, on va exploiter du pétrole et du gaz alors qu'on en a déjà assez, que ça va faire tomber les prix. C'est absurde. C'est la grande déconnade, mais dangereuse, quoi.
Oui, malheureusement, oui, c'est ça. Déconnade. Si ce n'était que ça. Ainda estu aqui qui, je suis toujours là. Moi, je ne suis pas lusophone, je suis désolée. Au navire, donc, il est à voir au navire à Aubenas et au Vivarais à Privas. Et la semaine prochaine, il sera également à Rosières. Il nous reste 5 minutes pour parler à la fois de A Perfect Unknown que tu as vu, puisque la semaine dernière, René, oui. On annonçait donc l'événement qui a eu lieu. Tu es allé à cet événement. Il y avait un concert folk, puis l'avant-première.
Voilà, mais un mot, puisque on en reparlera quand il sortira vraiment, mais j'aimerais tellement donner envie aux
la
gens
semaine prochaine.
D'aller le voir.
J'attendais ce que tu allais dire.
Parce que j'adore Dylan, mais surtout, le film est juste en ce sens qu'il souligne chez lui une dimension essentielle, c'est son parti pris de liberté. Dylan est une légende, il a eu un succès fracassant dès le début, et les gens ont toujours essayé de le récupérer, de le mettre dans des cases. Alors, il y a eu la case Protest Song, qu'il a rejeté tout de suite parce qu'il sentait qu'on allait l'enferrer là-dedans. Il y a eu la case folk où c'était l'époque où il fallait jouer avec des guitares sèches. Lui débarque au festival de Newport avec un orchestre rock, donc un orchestre électrique. Ça crée un scandale, il n'a pas arrêté. Alors c'est peut-être un peu ambigu, peut-être qu'il fait ça aussi pour se relancer sa carrière, mais je pense qu'il le fait surtout par esprit de liberté. Et le truc le plus marrant, c'est récemment, il y a quelques années, alors qu'il a une voix, il faut le reconnaître, il est à peine écoutable maintenant, sa voix est éraillée au possible, et il a enregistré un disque des chansons de Frank Sinatra.
Ouais.
Alors, c'est inécoutable, mais on sent que le but n'est pas là, c'est pour montrer, vous voyez, je vous emmerde, vous voulez pas, vous aimez pas ma voix, et ben vous aurez quand même ça. Et c'est cet aspect de Dylan qui est fascinant. C'est une anguille, il échappe à toutes les formes de contrôle. C'est ce que j'aime beaucoup en lui, et que beaucoup d'autres aiment beaucoup. Il faut absolument aller voir ce film.
Et que restitue ce film ? Qu'arrive à restituer ce film ?
Tout à fait. Alors qu'il ne traite une période très courte de sa carrière, à 60 ans quand même. Hein. Il est un des rares auteurs, compositeurs, interprètes de musique populaire à continuer de sortir des disques de grande qualité. Ça n'existe pas, ça. 60 ans.
Et avoir le prix Nobel quand même.
Voilà. Alors ça, c'est encore autre chose. Mais là, c'est uniquement de 61, quand il arrive à New York avec sa guitare sèche, jusqu'à 65, le concert où il joue de la guitare électrique. Voilà, c'est 4 ans de sa carrière. Mais en 4 ans, le personnage est très bien cerné.
Donc il sort dès mercredi, là, il sera au navire.
Le titre, pour ceux que ça intéresse, est tiré bien sûr de la chanson Like a Rolling Stone.
Yes, A Perfect Unknown.
A Perfect Unknown.
Merci beaucoup pour cette mise en bouche. Alors peut-être maintenant, les films Télérama que vous voulez conseiller.
Il faut tous les voir.
Il faut tous les voir.
Elle les a tous déjà vus, c'est facile.
Non, mais ils sont, enfin, vraiment tout ce qui a reprogrammé, qui sont reprogrammés au navire là. Si vous les avez ratés, enfin voilà, ça fait quand même partie des meilleurs films de l'année dernière. Donc, je crois que vous allez pas trop vous tromper, même en y allant comme ça à l'aveugle.
On a parlé justement des graines des figuiers sauvages, qui repasse, prenez les horaires, et puis aussi avec ta critique, enfin ta diatribe sur les États-Unis actuels, on peut aussi mentionner The Apprentice.
Clairement.
Et Misericorde.
Oui, bien sûr.
Je l'ai raté, mais je vais aller le voir.
Mais The Apprentice particulièrement, parce que finalement, le film quand même a fait débat, et ils ont essayé de ne pas le sortir aux États-Unis. Enfin bon, bref. Mais franchement, pour comprendre qui est Trump et son ascension, c'est vraiment un film formidable. Et le réalisateur, je m'en souvenais pas, mais j'ai vu tout à l'heure. C'est extrêmement maîtrisé comme film, et il avait fait Border en 2018, qui était vraiment un film exceptionnel dans l'année, et voilà.
Sur la monstruosité, finalement, la limite, sur la frontière.
L'absence d'empathie, c'est quelque chose de
fabuleux. Mais allez voir, vous conseillez tout le
temps,
festival.
On n'a pas le temps, mais il y a plein de films intéressants.
Ouais. Et pour terminer, ce soir, Robocop, donc justement, Escale Patrimoine,
Escale Patrimoine, c'est un projet qu'on porte avec le Cinéma Le Navire, Maison de l'Image au Bénin et Cinéma Le Navire. Et là, on est sur une thématique plutôt film policier, polar, mais là, on sort un peu, enfin, on prend le film policier en version fantastique et science-fiction avec le premier Robocop de Paul Verhoeven qui est sorti en 1987 et qui a marqué forcément l'histoire du cinéma. Pour plein de raisons, mais qu'on développera ce soir. Donc venez à 18h15, c'est ça, ou
18h15.
Et je souligne qu'il y a, et c'est bien fait ça pour les escales patrimoine, il y a une projection aux trois horaires, parce qu'on a tous nos horaires. Hein. Donc lundi 27, ça sera 15h, et mardi 28, ça sera 20h45.
Ouais,
d'accord.
Donc et moi, c'est 15h.
Et la séance du jeudi, historiquement, est toujours présentée et accompagnée. On a une petite discussion aussi à l'issue de la séance avec le public.
D'accord, mais tu as dit jeudi, mais là c'est vendredi.
Ah ben c'est vendredi parce que il y a une petite erreur.
D'accord. Donc, c'est demain, c'est aujourd'hui. Pardon, c'est aujourd'hui, ce soir à 18h15. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir été présents et merci Sylvain pour la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine, sans doute pour parler de A Perfect Unknown et d'autres. Ciao.